RFJ Info.
Le journal signé François Comte.
Madame, monsieur, bonjour. La fermentation sous toutes ses formes au marché bio de Seignelay-Gier. La thématique sera déclinée lors de la 32e édition de la manifestation. Rendez-vous les 14 et 15 septembre à la halle du marché Concours. Le canton du Jura revoit son plan d'action en faveur du lièvre brun. Les effectifs restent insuffisants malgré la stratégie mise en place depuis 5 ans. Les mesures sont désormais davantage ciblées. En football, la Super League pourrait changer dès la saison 2021-2022. La Swiss Football League propose une formule qui rappelle celle de la fin des années 80, avec un tour pour le titre et un tour de relégation. Météo, soleil et nuages vont s'alterner dans le ciel de la région. Cet après-midi, il fera entre 18 et 22 degrés. Le temps s'annonce un peu plus ensoleillé demain, après dissipation de quelques brumes matinales. Ça fermente, c'est le thème de la 32e édition du marché bio qui se tiendra à Seignelay-Gier les 14 et 15 septembre prochains. L'événement réunit cette année plus de 75 producteurs bio, des associations et des artisans. Le marché bio a choisi de faire la part belle aux levures, aux champignons et autres bactéries. La manifestation abordera la question de la fermentation à travers des animations et des stands dédiés à cette thématique. Lina Dubié, organisatrice du marché bio, nous explique pourquoi ce thème a été retenu.
On aime bien les thèmes qui sont en lien avec l'alimentation ou avec l'agriculture en général. Et puis le marché bio, c'est quand même une belle vitrine de l'artisanat, de la transformation des produits fermiers. Et en fait, la fermentation fait souvent partie de cette transformation de produits. Sur toute la diversité qu'on trouve sur le marché, il y a beaucoup, beaucoup de produits qui sont en fait des produits fermentés.
Alors au niveau des personnes qui seront présentes, des agriculteurs, des artisans, est-ce qu'il y a un petit peu plus de monde que d'habitude ?
Cette année, oui, on a un petit peu plus de monde que d'habitude, même si certains qui étaient là depuis de nombreuses années ne viennent pas forcément cette année. On a en fait quelques nouveaux stands, quelques nouveaux exposants qu'on accueille avec grand plaisir et qui apportent une belle diversité sur le marché aussi.
Des propos recueillis par Caroline Toussaint, le marché bio attend de 20 à 30 000 visiteurs les 14 et 15 septembre à Seignelay-Gier. Les lièvres bruns ne sont pas encore assez nombreux sur le territoire jurassien. C'est le bilan contrasté des 5 premières années de mise en œuvre du plan d'action en faveur de l'animal. Une amélioration a été observée ce printemps, mais les effectifs n'atteignent en moyenne que 1,7 individus au kilomètre carré, alors que l'objectif était de 4. L'État jurassien a ainsi décidé de prendre de nouvelles mesures en affinant notamment l'axe lié à l'habitat, les précisions d'Émilie Moumentaler.
Le groupe de travail s'est inspiré des succès obtenus à Bâle-Campagne dans le cadre d'un projet similaire en faveur du lièvre brun. Les adaptations concernent les mesures de revitalisation de l'habitat et de protection des levraux. En effet, selon le responsable du domaine nature à l'Office de l'environnement, Laurent Gognat, le problème n'est pas le nombre de naissances, mais le nombre de petits qui atteignent l'âge adulte. Deux régions de plaine ont été priorisées pour un projet pilote qui doit s'étaler sur 6 ans. Il s'agit des zones Vendelines-Quevrat en Ajoie et Surchaux sur les communes de Haute-Saône et Courtetel pour un total de 700 hectares. Les jachères florales et les parcelles de céréales semées de manière moins dense seront particulièrement promues. Ces deux habitats offrent effectivement un couvert végétal aux levraux à l'abri de prédateurs et d'interventions mécaniques. Quelques 45 exploitants seront ainsi contactés dans le cadre d'un partenariat avec AgriJura.
Autre nouveauté, quelques lièvres seront équipés d'un collier GPS afin d'analyser leurs déplacements et leurs comportements sociaux. Les deux autres axes principaux du plan d'action, soit la régulation des prédateurs sauvages du lièvre brun que sont le renard et la corneille, ainsi que la surveillance du braconnage, seront poursuivis. Les recherches des deux personnes disparues à Chamozon, dans le Valais, se poursuivent et donnent de premiers résultats. Des pièces de la voiture où se trouvaient les victimes ont été retrouvées. Les débris ont été découverts éparpillés le long de la rivière de la Lozance. Une lave torrentielle avait déferlé sur Chamozon le dimanche 11 août, lorsque le cours d'eau était sorti de son lit à l'issue d'un orage. Un jeune voix de 37 ans établi dans le Valais, une fillette française de 6 ans reste introuvable. Leur voiture avait été emportée par les flots. Hans Rudolf Merz présentait ses excuses à la Libye il y a pile 10 ans. Le PLR, alors président de la Confédération, indignait toute la Suisse après cette concession faite dans le contexte polémique de l'arrestation du fils de Muammar Kadhafi à Genève durant l'été 2008. En représailles, la Libye avait retenu deux Suisses en otage et le voyage de l'Appenzellois visait à obtenir leur libération ainsi qu'à conclure un accord sur les relations entre les deux pays. Les deux otages ne rentreront finalement qu'en 2010, mais dès son retour en Suisse, Hans Rudolf Merz avait dû justifier ses excuses.
Il a fallu dire quelque chose. Sinon, alors on n'aurait pas signé ce contrat. Mais non, je voulais dire, vous avez maintenant un blocage total. Que feriez-vous à ma place? Je vous pose la question. Qu'est-ce que vous auriez fait? Je suis venu à la conclusion qu'il s'agit d'un blocage. Sinon, je n'aurais jamais fait un tel. C'est, pour moi, ce n'était pas un plaisir, je peux vous assurer. Moi, j'ai eu beaucoup de voyages beaucoup plus agréables que celui d'hier.
Mais le voyage a laissé un goût amer au monde politique suisse, notamment au socialiste Manuel Tornard. L'élu genevois, aujourd'hui parlementaire fédéral, estime qu'une telle situation pourrait se reproduire.
C'était un peu maladroit sur le plan diplomatique. Et puis, ça montrait aussi qu'au sein du Conseil fédéral, il n'y avait pas forcément une unité de vue, que chacun tirait un peu la couverture à soi. Les territoires sont pas toujours bien délimités, et surtout en politique étrangère. On le voit avec les négociations avec Bruxelles. Chacun veut essayer d'être le héros du jour ou du moment. Donc là, il faut de la clarification et bien savoir qui fait quoi. Autrement, on brouille les ondes, et ça, c'est pas bon.
Un dossier réalisé par Jérôme Favre. Le Groenland jette un froid entre les États-Unis et le Danemark. Le président américain Donald Trump a annulé un voyage à Copenhague, une rencontre avec la première ministre danoise. Motif, la chef du gouvernement danois ne souhaite pas vendre aux États-Unis l'île de l'Arctique, grande comme 4 fois la France. L'annonce a suscité la stupéfaction au Danemark. Alexandre Rosset.
La réalité transcende la fiction, selon Martin Østergaard, chef de la gauche radicale et membre de la majorité parlementaire. Même la reine du Danemark a fait part de sa surprise. La presse américaine a en effet révélé en fin de semaine passée que Donald Trump s'était renseigné sur la possibilité pour les États-Unis d'acheter le Groenland, territoire autonome rattaché au Danemark et riche en ressources naturelles. Étant donné les commentaires de la première ministre Mette Frederiksen, selon lesquels elle n'aurait aucun intérêt à discuter de l'achat du Groenland, je vais repousser notre rencontre à un autre moment, a déclaré le président américain. Un député conservateur danois, Rasmus Jarlov, s'est insurgé sur Twitter. Sans aucune raison, Trump considère qu'une partie de notre pays est à vendre. Ensuite, il annule de manière insultante une visite que tout le monde était en train de préparer. Merci de montrer plus de respect, a-t-il écrit sur le réseau social. Un dernier coup d'éclat de Donald Trump qui vient s'ajouter aux autres sujets de discorde entre le président américain et ses alliés traditionnels. Tout cela à quelques jours du sommet du G7 à Biarritz.
Vous écoutez RFJ, les 12h23.
Sport. En football, la Super League pourrait rassembler 12 clubs, soit 2 de plus qu'aujourd'hui. La proposition de la Swiss Football League faite ce matin pourrait entrer en vigueur à partir de la saison 2021-2022. La formule de championnat pourrait également changer avec un concept qui rappelle celui mis en place à la fin des années 80, les explications de Marceline Michon.
Un championnat de Super League à 12 équipes, cela rappelle la formule mise en place lors de la saison 1987-1988. Elle a été remplacée en 2003 par le mode de championnat actuel à 10 clubs. Les 12 équipes disputeraient une première phase de 22 matchs. Les 6 premiers à l'issue de cette phase seraient qualifiés pour le tour final pour le titre. Les clubs classés au rang 7 à 12 lutteraient eux contre la relégation. Le dernier de ce tour de relégation descendrait directement à l'échelon inférieur. L'avant-dernier disputerait un barrage contre le deuxième de Challenge League. Si cette réforme est acceptée, 2 clubs de Challenge League seraient directement promus dans l'élite au terme de la saison 2020-2021. Cette formule de championnat a été introduite en Autriche au début de la saison. La Suisse pourrait donc suivre l'exemple de son voisin.
Et l'Assemblée générale de la Swiss Football League se prononcera le 22 novembre prochain. 15 millions d'euros sont en jeu. Young Boys est à portée de crampons de la Ligue des Champions. Les Bernois devront d'abord se débarrasser de l'étoile rouge de Belgrade. IB reçoit les Serbes ce soir en match aller des barrages pour la phase de poule de la prestigieuse compétition. Marcel Neuenschwander.
Young Boys doit déjà poser ce soir à domicile sur sa pelouse synthétique, ce qui constituera peut-être un atout, les premiers jalons d'une qualification. Ceci avant de se rendre mardi prochain dans la capitale serbe pour la rencontre retour. L'ambiance risque d'ailleurs d'être chaude et bruyante dans le stade d'Étoile Rouge Belgrade, une enceinte de 50 000 places pour un club, rappelons-le, au passé prestigieux Étoile Rouge Belgrade avait enlevé en 1991 la Coupe des Champions, ainsi dénommée à l'époque au détriment de l'Olympique de Marseille. Mais revenons déjà à ce soir. Young Boys jouera à guichet fermé. Les 31 000 billets disponibles ont tous été vendus. Le club bernois pourra lui aussi compter sur le soutien populaire. D'ailleurs, depuis que Gerardo Seoane a pris les commandes du club bernois lors de l'été 2018, son équipe n'a perdu qu'une seule fois devant son public. C'était en championnat en octobre dernier face à l'UCL. A priori, Young Boys n'abordera toutefois pas cette partie dans des dispositions idéales. En plus de Sandro Lauper et Mohamed Camara, Marvin Spielmann est désormais lui aussi blessé. En revanche, bonne nouvelle, Miralem Soleimani et surtout Guillaume Oaro se sont entraînés normalement avec leurs coéquipiers hier. Ces deux joueurs s'inscrivent aujourd'hui en joker parfait pour faire pencher la balance du bon côté en fin de match. À voir.
Et le match suscite une certaine euphorie dans le camp bernois. Un rendez-vous spécial qui ne doit toutefois pas péjorer la concentration, comme l'explique l'entraîneur de Young Boys, Gerardo Seoane.
Notre staff et notre équipe se réjouissent beaucoup de ce rendez-vous. On ressent une certaine euphorie dans la ville et le stade sera presque rempli. J'espère d'ailleurs que les gradins se rempliront le plus possible. Nous savons que le défi est de taille. L'euphorie du match ne doit pas empiéter sur notre concentration. Belgrade est une équipe expérimentée. La plupart des joueurs étaient déjà dans l'effectif la saison passée et du coup, il y a beaucoup d'automatisme. C'est un clair avantage pour eux. Nous, on a connu une période de transfert agitée avec beaucoup de nouveaux et de jeunes joueurs. L'opposition va du coup être intéressante.
Des propos traduits par Michel Léoni. Le coup d'envoi du match entre Young Boys et l'Étoile Rouge de Belgrade sera donné ce soir à 20h au Stade de Suisse. Toujours en football, les SR de Léman en Argovie pour confirmer. Les SRD se déplacent à Volun ce soir à 20h dans le championnat de Première Ligue, 10 jours après avoir ouvert leur compteur en battant Langenthal. De son côté, le FC Basse-Cour cherche toujours son premier succès en championnat. Les Vadais accueillent ce soir le FC Soleur à 20h au Grand Pré. Le FC Basse-Cour a concédé deux matchs nuls sur ses deux premiers matchs de la saison. En deuxième ligue interrégionale, le FC Moutier veut rester invaincu. Les Prévotois affronteront Könitz ce soir à 20h au stade de Chalière. Le FCM reste sur deux victoires en autant de matchs dans le championnat. En hockey sur glace, un derby amical ce soir au Voïbeux. Le HC Ajoie reçoit la Chaux-de-Fonds à 20h pour le quatrième match de préparation des Jurassiens. Les deux formations de Swiss League seront également opposées dès la troisième journée de championnat. Enfin, c'est parti pour les 4 foulées. La 27e édition de la course à pied franc-montagnard débute ce soir à 19h au départ et à l'arrivée des Bois. Un parcours de 9 km avec 219 mètres de dénivelé attend les participants. Les prochaines étapes emmèneront les coureurs au Breuleux la semaine prochaine, puis à Seignelégier et au Noirmont.
Merci François Comté. La suite en musique dans un instant avec Imagine Dragons. C'est juste avant, il y aura une naissance à vous annoncer. Quelques nuages, du soleil et une bise sensible avec des rafales entre 30 et 40 km/h. C'est ce que prévoit Météo News pour la suite de cette journée. Et le mercure, il grimpe au mieux jusqu'à 22 degrés en plaine et 18 aux Franches-Montagnes. Demain, il y aura quelques stratus le matin, sinon c'est un temps ensoleillé qui est prévu avec un peu plus de nuages l'après-midi, mais ne donnant pas d'averse. La bise va faiblir et il fera entre 10 et 12 degrés à l'aube, puis au meilleur de la journée, 22 à 1000 mètres et 25 en plaine.